Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 17 octobre, partons ensemble pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité grâce au reportage de nos correspondants. D'ailleurs, bravo encore à Sonia Ghezali, notre consoeur à Kaboul, récompensée par le prix Bayeux des correspondants de guerre. Un grand bravo à elle et à l'ensemble de nos correspondants qui travaillent parfois dans des situations périlleuses. Nous allons nous rendre dans le Caucase, au Mali ou au Nigeria par exemple, et en France aussi, après les nouvelles mesures annoncées mercredi par Emmanuel Macron contre la reprise de l'épidémie de Covid-19 et notamment le confinement nocturne. Notre invité cette semaine est Christian Salmon. Avec lui, nous allons parler de ce qu'il appelle dans son dernier livre « La tyrannie des bouffons, du pouvoir grotesque ». Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio www.rfi.fr ou sur votre moteur de recherche préféré. Et avant d'écouter Christian Salmon, je vous propose deux étapes sonores. D'abord en Thaïlande, arrestation des leaders de la contestation, interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes et des messages en ligne. Le gouvernement thaïlandais a durci le ton jeudi face au mouvement de contestation qui défile depuis plusieurs mois pour demander plus de démocratie. À Bangkok hier, Carole Izou.
Ils étaient là pour défier le pouvoir en place. Hier soir, des milliers de manifestants étaient venus dire au gouvernement qu'ils n'avaient pas peur de l'état d'urgence imposé dans la capitale thaïlandaise, qui interdit désormais les rassemblements de plus de 5 personnes et la diffusion d'informations relatives aux manifestations. Ils étaient là malgré l'absence de leur leader, déjà presque tous arrêtés le matin par la police, inquiets mais fermes dans leurs revendications. Départ du gouvernement, nouvelle constitution et surtout réforme de l'institution monarchique. Ils sont très jeunes, beaucoup de lycéens sortaient des cours et portaient encore leur uniforme, comme Tien, 16 ans.
Notre gouvernement n'écoute pas du tout le peuple. Franchement, il nous méprise et ça n'est plus acceptable. Et le roi aussi, il mène la grande vie en Allemagne en utilisant les ressources de notre pays alors qu'ici, l'économie s'écroule. Qu'est-ce que c'est qu'un monarque qui réside à l'étranger en continuant à toucher nos impôts? On ne peut vraiment plus l'accepter. C'est ça qu'on est venu dire au gouvernement.
Pour l'instant, le gouvernement n'a pas fait usage de la force, mais cette contestation de la monarchie est illégale. Elle se heurte à l'ultra-royalisme d'une frange de la population. Les étudiants appellent à nouveau à se rassembler ce soir à l'une des intersections les plus fréquentées de la ville.
À suivre évidemment dans nos journaux. Seconde étape, avant de parler du pouvoir grotesque selon Christian Salmon, partons aux États-Unis où Donald Trump, en chute significative dans les sondages, est redescendu dans l'arène lors de sa première réunion publique après son Covid, c'était en Floride. Donald Trump qui a été secoué jeudi par une journaliste et des téléspectateurs lors d'une émission de télévision qui remplaçait un débat avec Joe Biden, qui lui-même participait à une autre émission sur une autre chaîne, nous en reparlerons tout à l'heure. Reportage de notre correspondante Anne Corpé.
Je dénonce les suprémacistes blancs. Donald Trump avait refusé de le faire lors du débat qu'il avait opposé à Joe Biden. Cela lui avait attiré de nombreuses critiques au sein de son propre camp. Il s'y est donc résolu, mais pressé par la journaliste de condamner également les thèses conspirationnistes du mouvement QAnon, il esquive.
Je ne sais rien sur QAnon. Je sais qu'ils sont très contre la pédophilie. Ils se battent très dur et je suis d'accord avec ça.
Opiniâtre, la journaliste relance le président sur un message conspirationniste qu'il a retweeté. Donald Trump, sur la défensive, répond.
C'était l'opinion de quelqu'un, je l'ai retweeté, je l'ai mise là où les gens peuvent décider.
Vous êtes le président, vous n'êtes pas un oncle fou qui retweete n'importe quoi, s'indigne la journaliste. Pendant une heure, le président est soumis à rude épreuve et s'agace. Il ne dévoile rien de son projet pour un second mandat, mais l'assure, notre économie est forte et l'année prochaine sera la meilleure que nous ayons jamais connue.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Christian Salmon.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes écrivain, essayiste, chroniqueur à Mediapart, fondateur du Parlement international des écrivains, et vous avez popularisé cette notion de storytelling il y a quelques années déjà. C'était dans un livre publié en 2008, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez aussi parlé de l'ère du clash qui est la nôtre en ce moment. Là, c'était en 2019, hein, oui. Un livre plus récent. Et là, Christian Salmon, vous publiez La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque. Ça tombe bien, on vient d'en entendre un. Là, je vais vous reprendre. Est-ce que dans ce livre, Trump occupe une place de choix? Je voudrais d'abord noter la ténacité de la journaliste qui interroge Donald Trump. On n'a pas l'habitude en France d'avoir des présidents interrogés de cette sorte.
Absolument. Oui, oui, je trouvais qu'elle était très, très coriace. Et Trump n'est pas facile à coincer. Parce que il joue des contradictions, du sarcasme, des transgressions, notamment sa dénonciation des suprémacistes blancs. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'il le dit aussi explicitement. Ceci dit, ça ne change rien parce que c'est quelqu'un qui joue de la transgression, des figures clownesques, de la ridiculisation, et surtout qui transgresse les codes, les rituels de la vie politique. C'est ce qui est extrêmement intéressant à analyser chez Trump, c'est que depuis son élection 2016, donc mais déjà depuis sa campagne, les journalistes mainstream, dirait-il, les grands médias sérieux, ou les libéraux, les opposants, ont toujours stigmatisé ses prises de position sur un mode, en gros, il est trop incompétent, trop irrationnel pour être un président. Et puis il a été élu. Et on a entendu, on a tous pensé, y compris moi, puisque je suivais la campagne à l'époque pour Mediapart, c'est pas possible, il va pas tenir un mois ou deux mois, etc. Et puis il s'est installé, il arrive au moment de sa campagne pour la réélection, là, 4 ans après, avec des sondages qui sont remarquablement plats.
Il a toujours ses 40% de fidèles.
Il conserve ses 40%.
Mais pour le reste, c'est plus difficile.
Voilà. Mais, alors, le sens du livre, c'était de renverser la question. Non plus de dire toute cette transgression, toute cette irrationalité, toute cette incompétence. Il a été élu et il gouverne en dépit de tout ça. Et j'ai voulu renverser la question en me posant la question inverse, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas ça qui fonctionne?
Est-ce que le critère pour arriver au pouvoir aujourd'hui, c'est pas l'incompétence?
Exactement. Est-ce que l'irration... Et là, je suis tombé sur le texte de Michel Foucault qui dit la chose suivante. Il dit, en fait, le pouvoir grotesque n'est pas un accident dans l'histoire, ce qu'on a cru avec Trump et d'autres, puisqu'il y a une kyrielle de dirigeants depuis 2016 qui s'est imposée sur la planète. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine fonctionnalité du bouffon et non pas l'accident correspondant à une situation, à un pays, etc. Foucault l'explique de la manière suivante en disant au fond, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est une catégorie historico-politique. C'est-à-dire, c'est un mode du pouvoir. C'est d'autant plus remarquable de la part de Foucault, c'est qu'il écrit ça dans les années 70.
Oui, et à son époque, il n'y avait pas d'exemple.
Il n'a pas sous les yeux ses dirigeants. Et donc, le raisonnement consiste à dire, mais au fond, le pouvoir grotesque, c'est-à-dire qu'un chef d'État qui se permet toutes les transgressions, qui renverse la table, qui ne se présidentialise pas, qu'est-ce qu'il dit à son public? Ben, il dit qu'en fait, le pouvoir n'émane que de lui-même. Il ne correspond pas à une fonction, à une constitution, à des règles historiques, à ce que Max Weber appelait le charisme politique, puisque tout ça est dénoncé, ridiculisé. Hein. Donc, c'est la forme suprême du pouvoir arbitraire. Donc, muni de cet angle d'attaque avec Michel Foucault, j'ai décidé d'enquêter sur les coulisses de ce pouvoir grotesque. Et donc, on voit apparaître là deux figures, pas seulement ce que j'appelle le clown, mais encore une fois, le clown, le bouffon, tout ce registre du burlesque ne désigne pas des psychologies ou des pathologies. Hein. C'est une scène. Lorsque vous allez au cirque, vous savez que les bouffons vont ou les clowns vont défiler. Donc, j'analyse cette scène nouvelle du politique. Et sur cette scène, qu'est-ce qu'il y a? Il y a au premier plan, effectivement, Bolsonaro, Johnson et les autres, le bouffon. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce bouffon, comme les clowns vont toujours par deux, hein, Il y a un couple, c'est l'ingénieur informaticien.
Ça, c'est très important. On y reviendra, Christian Salmon, parce que derrière le clown, entre guillemets, derrière le bouffon, il y a toute une stratégie marketing, politique. Rien n'est laissé au hasard, contrairement à ce que pourrait laisser penser Absolument. L'attitude, justement, de ces chefs d'État. Restons un instant sur Donald Trump. Vous publiez quelques-uns de ses tweets au début de l'épidémie de Covid aux États-Unis. Par exemple, il disait le 24 février, le coronavirus est sous contrôle aux États-Unis, bien sûr, tout le monde était convaincu. Le 15 mars, c'est un virus très contagieux, c'est incroyable, mais c'est quelque chose sur lequel nous avons un énorme contrôle. Plus c'est gros, plus ça passe.
Oui, d'ailleurs, je le dis au début du livre, la pandémie de Covid-19 a eu un effet de loupe.
Hein, ouais.
C'est-à-dire qu'on avait déjà ces comportements, ces contradictions, cette irrationalité, mais sous le Covid est apparue vraiment l'absurdité totale. C'est-à-dire, là, vous citez quelques exemples, mais il aussi en permanence entre la situation très grave et la litote qui dit mais tout va bien en fait,
avec toujours des superlatifs, hein, vous avez remarqué,
voilà, il passe de l'hyperbole à la litote, l'exagération et la répétition, et en fait même il va jusqu'à dire des choses aussi absurdes, mais ça c'est célèbre maintenant, qu'on pourrait se guérir ou se protéger du virus en absorbant du désinfectant. Voilà. Mais vous voyez ce qu'on a du mal parfois à capter, parce qu'on est tout le temps sidéré par ces exagérations, ces outrances, etc. Mais ça correspond à l'ère du clash. C'est-à-dire qu'il attire l'attention, il capte en permanence l'attention par des affirmations qui sont toujours transgressives. D'où la question, pourquoi tous ces dirigeants burlesques, grotesques, bouffonesques ont dénié la réalité du virus? Eh bien, c'est parce que ils ont été élus et ils gouvernent sur ce que j'appelle la spirale du discrédit. C'est-à-dire que depuis la crise de 2008, les opinions, dans des larges proportions, ont pris l'habitude de douter de tout. Du discours politique, du discours médical, on l'a vu en France avec le professeur Raoult, qui est le grand discréditeur de la science et de l'épidémiologie, qui ont en quelque sorte le jeu, ce n'est plus de se créditer ou de capter l'attention. Par exemple, Barack Obama, son slogan, c'était le changement dans lequel on peut croire. C'est-à-dire qu'on est du côté du crédit. On veut créditer la politique. Ces bouffons sont du côté du discrédit. C'est-à-dire qu'ils épousent cette spirale du discrédit que l'opinion confusément ressent, depuis 2001 avec le World Trade Center, puis 2008 avec la crise financière, et maintenant avec le Covid. Et donc, c'est ces discours discréditants les journalistes, la politique traditionnelle, les médecins, les épidémiologues, qui rallient les suffrages. Donc,
qui leur servent de carburant.
Exactement. C'est à la fois du carburant et c'est un business model.
Sept jours dans le monde.
Christian Salmon, partons maintenant dans le Caucase pour faire un point sur les combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui se disputent, on le sait, le Haut-Karabakh. D'intenses combats opposaient les forces séparatistes arméniennes du Nagorno-Karabakh et l'armée azerbaïdjanaise ces derniers jours. Régis Jonté a fait un point hier, notamment.
Le seul endroit où la trêve humanitaire était plus ou moins respectée depuis son entrée en vigueur samedi midi était Stepanakert. Mais ce jeudi, les frappes azerbaïdjanaises ont repris sur la petite ville à moitié désertée de ses 55 000 habitants. Des tirs de roquettes se sont à nouveau abattus sur elle ce jeudi, une dizaine de fortes détonations qui ont touché les abords de la ville. Selon les autorités du Haut-Karabakh, l'ennemi a visé délibérément des cibles civiles. Voilà qui vient encore aggraver la situation côté arménien, alors que les forces azerbaïdjanaises poursuivent leur offensive sur la ligne de contact, notamment au sud-est et au nord. Bakou annonce la reprise de 6 nouvelles localités, au Karabakh lui-même et dans 2 districts occupés autour de la province sécessionniste qui était sous contrôle arménien depuis la fin de la guerre de 1988-94, ce qui est en partie confirmé par le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, qui a reconnu que l'armée dite de défense du Haut-Karabakh a dû se retirer de certaines positions et que la situation est très sérieuse.
Une situation à suivre dans nos journaux. En Biélorussie, notez aussi que Svetlana Tikhanovskaya a lancé un ultimatum au président Alexandre Loukachenko. L'opposante en exil a donné 13 jours au président biélorusse pour céder le pouvoir et libérer les prisonniers politiques, faute de quoi elle demandera à ses concitoyens de descendre massivement dans la rue et appellera à un mouvement de grève générale pour paralyser le pays. Christian Salmon, repartons aux États-Unis pour parler cette fois de l'émission de télévision avec Joe Biden, alors qu'une autre émission accueillait Trump, on en a parlé il y a quelques minutes, tout cela pour remplacer un deuxième débat à distance que Donald Trump a refusé. Retrouvons cette fois Eric Desalves.
Alors que les États-Unis font face à leur troisième pic épidémique et après la contamination du président en personne, les premières questions posées à Joe Biden sur la chaîne ABC portent logiquement sur le coronavirus. Une électrice républicaine devenue indécise lui demande en quoi sa gestion de la pandémie serait différente de celle de Donald Trump. Trump n'a rien fait, répond son rival démocrate, masque à la main, il a paniqué et n'a jamais eu un discours de président.
Les mots d'un président sont importants. Quand un président ne porte pas de masque ou se moque des gens comme moi parce qu'ils portent un masque, alors les gens se disent que le masque n'est pas important. Or, toutes les études disent que si nous portions tous un masque, nous pourrions éviter près de 100 000 morts de plus d'ici la fin de l'année.
Et s'il est élu le 3 novembre, Joe Biden promet de guérir l'Amérique sur un autre front, celui de la division que Donald Trump, dit-il, ne cesse de creuser à son profit. Et pour qu'un second débat télévisé puisse se tenir en face à face, cette fois, Joe Biden pose une condition, que le président fournisse un test Covid négatif.
Partons pour Londres maintenant, avant de vous retrouver, Christian Salmon, et de parler de Boris Johnson, Bojo le clown, comme on le surnomme, car en Grande-Bretagne aussi, les mesures sanitaires s'accentuent et la contestation aussi monte. À Londres, Muriel Delcroix.
Plus de la moitié de la population d'Angleterre va donc désormais vivre en zone d'alerte élevée ou très élevée. Pour Londres et sept autres régions, cela veut dire interdiction de rencontrer amis et famille à l'intérieur, que ce soit chez eux ou dans les pubs ou restaurants. C'est le seul changement notable qui ne réjouit personne, mais semblait inévitable. En revanche, la vraie bataille se joue avec les régions du Nord-Ouest qui refusent absolument de passer au niveau le plus élevé et le plus contraignant et qui ne concerne pour l'instant que Liverpool. Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, rejette des restrictions qu'il estime injustes.
They are asking us.
Ils nous demandent de mettre en jeu les emplois, les foyers de nos habitants et une large partie de notre économie pour une stratégie dont l'efficacité est mise en doute par leurs propres experts. Ils sont prêts à sacrifier les emplois et les entreprises ici pour en sauver d'autres ailleurs. Nous ne l'accepterons jamais.
Les élus de ces régions économiquement défavorisées réclament un soutien financier plus important du gouvernement et disent préférer de toute façon un court reconfinement national. Le parti d'opposition travailliste et de nombreux scientifiques poussent aussi pour ce coupe-circuit jugé plus efficace. Pour l'instant, Boris Johnson et son ministre de l'économie résistent, mais pourraient céder à la pression à l'approche des vacances de la Toussaint.
Merci d'écouter RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes cette semaine en compagnie de Christian Salmon qui vient d'écrire La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque, un livre publié au Lien qui libère. Christian Salmon, vous faites en quelque sorte une galerie de portraits, vous analysez à chaque fois les attitudes de ces grotesques et Boris Johnson occupe une place de choix dans cette galerie, si j'ose dire. Qu'est-ce qui le distingue au fond de Donald Trump ?
Oh, pas grand-chose, sinon des couleurs.
À part la coiffure, peut-être.
Oui. Voilà, et encore le style décoiffé. Non, le cas de Bojo le clown, comme les journalistes l'ont surnommé, et surtout de son acolyte Cummings, est exemplaire parce que
Dominic Cummings,
ouais, qui est un type assez étonnant parce que il est à la fois expert. Bon, c'est lui qui a mené la campagne du livre, c'est-à-dire sur le Brexit, c'est lui qui a triomphé d'ailleurs, qui a animé la campagne.
D'ailleurs, j'en profite pour dire, Christian Salmon, que la Grande-Bretagne doit se préparer à la sortie de l'Union européenne. C'est ce que vient de déclarer, enfin, c'est ce qu'a déclaré hier Boris Johnson, justement.
Absolument. Et il est donc un ingénieur des réseaux sociaux, des GAFAM, l'utilisation des big data, et il a conceptualisé en quelque sorte une forme de d'intervention sur l'opinion publique qui est à deux jambes. Hein. La première, c'est d'aller grâce au traçage, aux traces qu'on laisse sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., à construire des profils. Ces profils permettant en quelque sorte d'anticiper ou de prévoir les variations de l'opinion. Et à travers ce traçage de l'opinion, donc les deux jambes sont, l'une va renforcer les messages, par exemple pour le non au référendum, et l'autre va dissuader les partisans du oui ou les hésitants d'aller voter. Oui. Hein. Et ça, c'est la même chose avec la mécanique Trump qui a été menée en 2016. Alors, Cummings, en même temps, est un personnage étonnant, parce qu'il n'est pas seulement un par rapport à tous les autres que j'ai repérés aussi, puisqu'il y a toujours ce couple, le clown et son informaticien, en Italie, avec la bestia de Matteo Salvini. La bestia est un modèle algorithmique de contrôle de l'opinion. À la différence des autres ingénieurs des clowns, Cummings est un personnage, on le compare à une sorte de personnage de la Renaissance. Il est comparé à Montaigne, parfois. Il croit à une sorte de nouvelle culture. C'est un conseiller d'un genre nouveau qui peut croiser Tolstoï et les réseaux sociaux, le romanesque et la physique quantique.
Bah, dites-moi.
Ouais. Ouais. Et donc ce magicien s'est manifesté en même temps avec une telle intelligence, une telle rationalité, etc. Mais au moment du Covid, c'est lui qui a créé un scandale parce que il a opté pour le projet d'immunité collective qui consistait à laisser se développer le virus pour que la population s'auto-immunise en quelque sorte, ce qui aurait coûté un grand nombre de victimes. Et il a même répondu à cette objection quand on lui a dit, mais enfin, vous vous rendez compte, tous ces retraités qui vont mourir. Il a dit, ces retraités vont mourir, c'est pas grave, hein, dans la mesure où c'est plus important de sauver la nation que de... Donc il est très bizarre, en plus, pendant le confinement, il s'est manifesté aussi en sortant, en déplaçant sa famille.
Il a lui-même été touché par le Covid.
Oui, absolument. Enfin, vous voyez, c'est assez caractéristique d'une façon de se comporter en politique. J'ai oublié de dire le mépris dans lequel il porte les députés de la Chambre, y compris les députés de son propre parti.
Et d'ailleurs, la situation de la Grande-Bretagne aujourd'hui est aux prises avec cette crise du Covid, comme d'autres pays d'ailleurs, mais elle fait partie des pays les plus menacés, et il n'y aura probablement pas d'accord de sortie du Brexit, dont la situation politique et sanitaire est vraiment critique.
Absolument. Mais c'est, en même temps, si vous voulez, c'est... Ce qui me frappe aussi bien chez Trump que Bolsonaro, que Johnson, c'est qu'on a un peu... On a l'impression qu'ils sont toujours au bord de l'abîme. Il y a une sensation de vertige devant cette politique de l'excès, cette politique du clash. C'est très frappant parce que regardez l'épisode Trump au moment où il est hospitalisé. Bon, tous les signes montrent que c'est très très grave. Les médicaments qu'il prend sont réservés à ceux qui ont un Covid sévère.
On dit que son traitement aurait coûté 100 000 $. Hein.
Oui, absolument. Et brutalement, on le voit, vous faisiez allusion à son meeting en Floride, triomphant, en pleine forme. C'est-à-dire qu'on est tout le temps devant une réalité qui est pas seulement fait de, comme on l'a dit au début, de fake news. On se dit, c'est une réalité alternative dans laquelle on ne sait plus ce qui est réel, ce qui est irréel, ce qui est vrai, faux. Et je pense que ça consiste à créer cette sorte de vertige et de spirale du soupçon, du discrédit.
Et de la haine aussi. Vous citez quelque part un journaliste conservateur américain qui est républicain mais contre Trump et qui dit que Trump a libéré, en fait, les haines et les violences.
C'est sa puissance. Moi, je l'appelle un banquier du discrédit. C'est-à-dire qu'il a capté ces discrédits épars, dispersés. Certains mettent les banques au premier plan du discrédit, d'autres les médias, etc. Ben, Trump a fédéré tout ça en un mouvement qui va des suprémacistes, des sectes démoniques, hein, QAnon, Et jusqu'au centre droit, quoi. C'est-à-dire qu'il
c'est large, le spectre est large.
Le spectre est large et il l'unifie et il le fédère, mais sous le signe du négatif.
7 jours en France.
Et j'aurais souhaité parler d'autre chose que du Covid-19 en France ou ailleurs, mais c'est impossible, vraiment impossible ces derniers jours, plus que jamais, face au regard de la pandémie donc de Covid-19. Christian Salmon, les pays européens ont encore durci mercredi leurs mesures de protection, en France donc notamment, où plusieurs grandes villes, dont Paris, soit près de 20 millions d'habitants, seront désormais soumises à partir de samedi à un confinement nocturne. Ainsi en a décidé le gouvernement et le président Macron, qui répondait aux questions des journalistes de TF1 et France 2 mercredi soir. Valérie Gasse.
Comment arrêter la deuxième vague ? Emmanuel Macron a tranché. Le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre de couvre-feu dans les métropoles où le virus se diffuse très rapidement. Une mesure évoquée depuis plusieurs jours et qui est pertinente, a estimé le chef de l'État, qui a dressé le bilan d'une situation sanitaire redevenue alarmante, mais a nié avoir perdu le contrôle de la situation. Emmanuel Macron marchait sur des œufs alors que la gestion de l'épidémie est l'objet de beaucoup de critiques. Son message, c'était de remobiliser les Français, de les responsabiliser sans les infantiliser, dans l'espoir de rendre acceptables des mesures de restriction des libertés qui étaient redoutées. Une tâche d'autant plus délicate pour le président qu'il s'agit aussi de limiter les interactions dans la sphère privée où a lieu la majorité des contaminations. En prenant la parole, Emmanuel Macron a voulu donner plus d'impact au message qui était déjà porté par le Premier ministre, dont il a salué le travail, et il a aussi essayé de montrer aux Français qu'il pouvait y avoir quelque chose de positif dans cette crise, en déclarant « Nous sommes en train de réapprendre à être une nation ».
Alors écoutons un extrait des propos d'Emmanuel Macron. Il y a question de déplacements et de vacances.
Nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser mais de responsabiliser. Et donc ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté pendant les semaines et les mois qui viennent. On sait que quand on est dans des espaces qui sont ouverts, on peut prendre l'air. On sait que quand on est justement dans des lieux où on peut sortir, on lutte plus efficacement contre le virus. Donc, demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné et parfois contre-intuitif.
La date était fixée depuis longtemps, mais elle est tombée au lendemain de cette intervention d'Emmanuel Macron. Jeudi, les domiciles de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, de l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran et de son prédécesseur Agnès Buzyn, de l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibène Diaye et du directeur général de la Santé Jérôme Salomon ont été perquisitionnés par les gendarmes de l'Office central de la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise sanitaire. Suite d'une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Salmon. Alors ça, l'intervention d'Emmanuel Macron vous a déclenché chez vous une colère.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a, je dirais pas que Emmanuel Macron appartient à la tyrannie des bouffons, à cette kyrielle de dirigeants irrationnels, mais d'une certaine manière, c'est encore plus grave, parce que on a vu cette équipe gouvernementale multiplier les interventions depuis le début de la pandémie, nous expliquant à grand renfort de messages pédagogiques que le masque ne servait à rien pour masquer le fait qu'il n'y avait pas de masque, que le confinement allait suffire et puis que le déconfinement dans des conditions relativement mal organisées ne poserait pas de problème. Voilà. Donc on a un dirigeant qui, d'ailleurs, faut noter, je ne sais pas si dans l'histoire de la Ve République on a vu un président intervenir dans les médias aussi souvent depuis le début de la crise. Alors on pourrait dire, bon, à situation exceptionnelle, communication exceptionnelle, sauf que cette communication exceptionnelle se dément elle-même, se contredit elle-même. Et c'est ça qu'on sent dans l'opinion, c'est-à-dire que les gens sont désorientés finalement. Je l'ai qualifié de narrateur peu fiable, parce que vous savez, dans la théorie du récit, un narrateur doit disposer du crédit. C'est-à-dire que par exemple, Cervantes raconte Don Quichotte en disant, ben voilà, je vais vous raconter
raconter une histoire qui m'a été racontée par ce témoin qui était, bon, etc. Mmh. Ça s'appelle un narrateur fiable, qui appuie son récit sur un crédit, en tout cas, qui vous demande d'abandonner votre méfiance, pour rentrer dans l'histoire. Et ce narrateur peu fiable, la théorie du récit, en liste les incompétences ou les caractéristiques, parmi lesquelles la première, c'est la contradiction. C'est-à-dire qu'un narrateur qui multiplie les contradictions, les versions différentes...
Et les postures, également.
Et les postures, absolument. On parlait tout à l'heure de la notion de couvre-feu qui appartient à la rhétorique guerrière. Et là, on retrouve un discours initial au début de la pandémie où...
On parlait de guerre.
Oui, Emmanuel Macron parlait de guerre, de mobilisation, de front, de ceux qui sont à l'avant-garde du combat et ceux qui sont derrière, les infirmières et les épicières. Toute une catégorie de tout un univers pararéel dans lequel on n'est pas en train de faire face avec des hôpitaux, avec des équipes compétentes, avec des informations crédibles. C'est-à-dire qu'on parlait souvent du brouillard de guerre. Vous savez, en état de guerre, les stratèges soit répandent le brouillard pour cacher. Bon, là, il y a eu un
comme disait Churchill, la vérité est la première victime de la guerre.
Absolument. Là, il y a un brouillard de pandémie. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la gravité exactement, on ne sait pas les gestes qu'il faut faire. Les gestes barrières maintenant apparaissent consensuels. Et donc, ce couvre-feu. C'est l'ultime qui va concerner quand même 20 millions de personnes.
Mais les scientifiques essentiellement sont eux-mêmes divisés, semble-t-il. Enfin, pas sur l'essentiel, mais sur les méthodes, sur le...
Oui,
à suivre.
Bah, notamment avec ce professeur Raoult qui a passé son temps aussi à se contredire, à sous-estimer la pandémie pour l'aggraver. Mais lui aussi, il est très représentatif d'une certaine manière de cette spirale du discrédit. C'est-à-dire qu'il intervenait dans les médias, non pas pour dire, voilà, comme un spécialiste, comme un épidémiologiste, messieurs, dames, faites ceci, faites cela, ça c'est bien, bon. Non, il intervenait pour discréditer les instances, la haute instance de sécurité mise en place par le gouvernement. Et donc, les Parisiens par rapport aux Marseillais, on voit maintenant le redémarrage de la pandémie dans la région marseillaise. Bref, tout ça participe de ce soupçon qui se répand, de ce discrédit qui gagne les opinions et qui fait qu'on est paralysé. Donc, ce narrateur peu fiable, évidemment, cette décision du couvre-feu, c'est une non-décision. Hein, c'est une non-décision, c'est-à-dire qu'on se tourne vers le couvre-feu, le confinement nocturne, parce que il n'est pas question d'arrêter l'activité, parce que il n'est pas question d'arrêter les transports en commun, qui sont quand même, on voit des foules rassemblées, etc. Parce qu'il n'est pas question de fermer les écoles, parce qu'il n'est pas question de fermer les universités, qui sont quand même deux foyers relativement.
Les universités, oui.
Ouais, voilà. Oui. Et donc c'est le couvre-feu, c'est une solution de dernière minute qui apparaît quand même très outrancière, parce qu'en fait il s'agit pas seulement de sécurité sanitaire, il s'agit d'empêcher les gens de vivre. 20 millions de personnes qui ne peuvent pas sortir après 21h, c'est-à-dire qu'ils doivent rentrer chez eux, commencer à rentrer chez eux à partir de 20h. Donc il y avait un journaliste qui plaisantait, mais cette plaisanterie je la trouve assez intéressante, il parlait non pas du couvre-feu, mais du couve-feu. C'est-à-dire que il est bien possible que les gens se rebellent contre ces mesures parce qu'elles apparaissent irrationnelles, et les sondages qui nous disent que c'est acceptable pour un grand nombre.
Oui, parce qu'il semblerait que les Français sont demandeurs de ce genre de mesures.
Mais c'est pas étonnant parce que la peur se répand. Mais cette peur, elle est irrationnelle. C'est pas une précaution face à la maladie. C'est qu'on sait pas où ça peut tomber, etc. Donc on se rallie. C'est le fameux effet ralliement autour du drapeau. Mais pour combien de temps ?
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire, notamment à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un salut à quelques-uns de nos auditeurs sur le continent africain. Bonjour aujourd'hui à Soulé Dawake, à Niamey au Niger, à Poséidon Migon, de retour parmi nous à Doba au Tchad. Bonjour à Malik à Dakar, Nazer Roy à Lomé. Un salut à Barry et à Barak à Conakry. Bonjour enfin à Jocelyn à Kinshasa et à Moussa à Casablanca.
7 jours en Afrique.
Direction le Mali, Christian Salmon. Dans le centre du pays, de présumés djihadistes ont mené lundi et mardi une attaque contre l'armée malienne, suivie d'une embuscade. 11 militaires maliens ont été tués. D'autre part, un bus transportant des civils qui quittaient Bandiagara pour la foire de la localité de Bankass, dans le centre du Mali, est tombé dans une embuscade tendue par de présumés djihadistes. 12 passagers du bus, dont 2 femmes et 1 enfant, ont été tués. Bamako, Serge Daniel, mardi.
Ces attaques sanglantes dans la région de Mopti interviennent peu après la libération des 4 otages maliens et européens par les djihadistes. Par ces actes, ces derniers ont-ils voulu signifier la fin de la trêve sur le terrain ? Autre interrogation, la contrepartie des otages élargie et notamment la remise en liberté dans le centre du pays de prisonniers djihadistes. Parmi eux, certains ont-ils participé aux dernières attaques de militaires et de civils pour signer leur retour ? Des questions pour le moment sans réponse, mais une certitude, des hommes armés qualifiés de terroristes selon la terminologie officielle malienne ont toujours une capacité d'action. La position de l'armée nationale attaquée est située au centre du pays, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, donc un endroit stratégique. 9 militaires ont été tués sur place et 2 autres dans l'embuscade tendue aux troupes régulières qui venaient en renfort. Mais il y a eu également de lourdes pertes dans le camp des assaillants. Des assaillants qui ont par ailleurs tué 12 civils, dont 2 femmes et 1 enfant, dans une autre embuscade.
Une semaine après la libération de Sophie Petronin, de Soumaïla Cissé et des 2 otages italiens, de nombreuses incertitudes demeurent sur les contreparties négociées avec les ravisseurs. Quels sont précisément les profils des djihadistes libérés ? Une rançon a-t-elle été payée ? Si oui, par qui ? Les zones d'ombre sont pour l'heure encore nombreuses. La France, elle, en tout cas, l'assure. Son rôle dans cette affaire n'a été que secondaire et les militaires sont mécontents. Franck Alexandre.
À l'aéroport de Villacoublay, vendredi dernier, Emmanuel Macron n'a pas, comme le veut la tradition, commenté le retour au pays de l'otage française. Sur le tarmac, un certain trouble était même palpable. Quelques heures auparavant, juste après sa libération, Sophie Petronin avait refusé de voir en ses gardiens des terroristes, préférant les assimiler à des opposants armés au régime. Ces mots ont visiblement fait grincer bien des dents au sein de l'armée française, à telle enseigne que François Lecointre s'en est expliqué devant les sénateurs. L'adversaire qui est le nôtre au Mali n'est pas un groupe armé d'opposition, a-t-il lancé, ajoutant « Il s'agit bien d'une organisation terroriste internationale proche d'Al-Qaïda », le chef d'état-major des armées faisant référence au Jnim du Touareg, Yadagr Ali. En échange des otages, la libération de terroristes a également provoqué beaucoup d'émoi. D'autant que parmi ces hommes, pour l'essentiel de petits poissons, figurent quelques cadres arrêtés par la force Barkhane. Je confirme que la France n'a en rien été impliquée dans les négociations avec ce groupe terroriste, a sobrement indiqué François Lecointre, mais en coulisses, de nombreux militaires français n'ont pas caché ces derniers jours leur agacement à la vue de l'accueil triomphal réservé par le chef du Jnim à plusieurs de ces hommes très aguerris et désormais libres.
Suite d'une semaine en Afrique, au Nigeria, les promesses du gouvernement ne parviennent pas à calmer la colère de la jeunesse. Les manifestations contre les violences policières ont continué de prendre de l'ampleur dans le pays, malgré l'annonce dimanche dernier de la dissolution d'une unité spéciale accusée de graves atteintes aux droits de l'homme. Des accrochages ont eu lieu le week-end dernier devant le quartier général de la police dans la capitale, Abuja. Lundi, à Lagos, les manifestants ont bloqué la circulation dans plusieurs quartiers de la ville, immobilisant la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants. Correspondance de Lisa Fabian.
Quelques 2000 jeunes sont massés autour du péage de Lekki. Juchés sur la structure de béton et de fer, ils continuent de réclamer une action décisive du gouvernement nigérian contre les violences policières.
C'est la première fois que la jeunesse nigériane sort en nombre avec un objectif commun, mettre fin aux abus de la police. Là, c'est le plus gros péage de Lagos. Personne ne passe. Au moins comme ça, nous aurons leur attention.
Au nord de la ville, c'est l'aéroport international qui est inaccessible. Dans l'après-midi, le président Muhammadu Buhari a finalement pris la parole pour la première fois fois depuis le début de ce mouvement.
Le démantèlement de la brigade en charge de la répression des vols et des braquages n'est que le premier pas vers une réforme étendue de la police, qui permettra de garantir que les premiers devoirs de la police est bien de protéger la vie de nos concitoyens.
Mais ces promesses sont encore trop vagues pour les jeunes manifestants qui attendent une action rapide et décisive de la part des autorités.
Nous réclamons justice pour ceux qui ont été tués et nous voulons que les officiers responsables de ces morts soient appréhendés.
La mort d'un jeune homme tué par la police en marge d'une manifestation à Lagos a été confirmée en fin de journée, ce lundi.
L'actualité africaine, ce sont aussi l'élection présidentielle en Guinée demain et en Côte d'Ivoire, la menace de boycott de la prochaine élection du 31 octobre prochain formulée par l'opposition. Tous ces événements, comme toute l'actualité africaine et internationale, sont à suivre dans nos journaux et sur notre site www.rfi.fr. Terminons ce voyage africain pour cette semaine, Christian Salmon, au Rwanda, car plus de 3000 réfugiés burundais du camp de Mahama sont rentrés au Burundi depuis le mois d'août dernier. 8000 autres se sont inscrits en vue d'un départ prochain dans le cadre d'un accord entre le HCR et les deux pays voisins. C'est la plus grande vague de retour du Rwanda vers le Burundi depuis la crise politique de 2015 qui avait poussé des dizaines de milliers de Burundais à passer la frontière. Notre correspondante Laure Broulard a suivi le sixième convoi jusqu'au poste frontière de Nemba.
Dernier pas au Rwanda pour Jean Bosco Karangwa qui présente ses papiers aux agents de l'immigration. Ce père de famille a fui l'instabilité politique au Burundi en 2015.
On est content de rentrer dans notre pays natal. Maintenant, il n'y a plus de problème. Ceux qui nous appellent de là-bas nous disent que la paix est suffisamment revenue.
Même si elle est incertaine de son futur au Burundi, Golette Nzora Bonimana a voulu quitter le camp de réfugiés avec ses 6 enfants.
À Mahama, mes enfants avaient une vie difficile. Et même si je ne possède pas de terrain au Burundi, j'ai décidé de ne pas laisser mes enfants à l'étranger dans cette situation. Je me suis dit, au lieu que mes enfants continuent de souffrir, je vais rentrer.
Les convois hebdomadaires d'environ 500 personnes sont supervisés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Élise Ville-Chalane, porte-parole de l'organisation.
Les raisons du retour sont principalement liées au changement politique qui a eu lieu récemment au Burundi. Pour l'instant, nous avons la majorité des gens qui veulent rentrer qui sont originaires de la région de Kirundo, c'est la région limitrophe. La plupart d'entre eux sont des fermiers et veulent sûrement retourner sur leurs terres pour pouvoir reprendre une vie normale dans leur pays d'origine.
Reste que beaucoup de réfugiés politiques à Kigali considèrent qu'un retour reste trop dangereux. Au Burundi, il n'y a toujours ni sécurité ni respect des droits de l'homme, assure Gustave Niyonzima, avocat et activiste burundais.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes toujours en compagnie de Christian Salmon pour La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque, son dernier livre. Cette galerie de portraits vous permet, Christian Salmon, de faire une analyse finalement de l'homme politique et plus précisément de sa disparition. Parce que il s'agit très clairement d'une remise en cause avec l'arrivée au pouvoir de ces hommes politiques de l'homo politicus, de l'homme politique.
Ce livre est le dernier d'une série de 4 livres qui avait commencé avec Storytelling, La cérémonie cannibale, L'ère du clash et donc maintenant La tyrannie des bouffons.
C'est passablement inquiétant, cette série est inquiétante d'ailleurs.
Qui chronique en quelque sorte les mutations de la condition politique. Non seulement la figure de l'homme politique, comment il s'incarne, comment il fait campagne, comment il gouverne, mais surtout la scène démocratique, hein, c'est-à-dire la scène sur laquelle la délibération démocratique peut avoir lieu et qui s'est progressivement déplacé des assemblées parlementaires. Ça vaut pour tous les pays en fait et que, sous tous les régimes, qu'ils soient présidentiels ou parlementaires, qui vont se déplacer donc des assemblées parlementaires aux talk-shows télévisés et maintenant aux réseaux sociaux. Et avec cette évolution, ce glissement progressif, on voit aussi les formes de l'homo politicus se transformer. Il a d'abord été dévitalisé. Sa figure est apparue comme un homme politique sans moyens avec le néolibéralisme qui a progressivement déconstruit les outils et les moyens des États,
Et donc cet homme politique...
D'où le début du discrédit d'ailleurs dans l'opinion publique.
Absolument, c'est-à-dire que l'homme politique apparaît de plus en plus visible, racontant des histoires à travers le storytelling, passant à la télé, faisant des transgressions, exposant sa vie intime, et en même temps apparaissant incapable de résoudre les problèmes concrets. Du coup, la pandémie est un épisode terminal de cette impuissance des hommes politiques. Donc ils ont compensé l'impuissance par la visibilité. Et cette visibilité, c'est une observation banale, hein. Plus vous êtes visible, plus vous disparaissez vite. Donc le phénomène de la disparition de l'homme politique, que j'avais déjà examiné dans l'ère du clash, se fait de manière paradoxale. C'est-à-dire, je dis dans le livre, il disparaît non pas en cachette, non, il disparaît au vu et au su de tout. Donc le turnover, les présidents ne sont pas réélus, les gouvernements chutent très vite, etc. Il disparaît au su et au vu de tout, et paradoxalement, on pourrait dire, il disparaît même à la une. Et c'est ce qui est arrivé à Hillary Clinton, c'est ce qui est arrivé à Renzi, ou à Sarkozy, ou à Hollande. Donc on a un phénomène d'obsolescence de plus en plus rapide de ces hommes politiques, et du coup ils cèdent la place sur la scène politique à ces bouffons qui sont extravagants, qui ne prétendent même plus avoir un programme. Vous l'avez dit dans votre reportage sur Trump, il n'a pas parlé de son programme pour son second mandat. C'est hallucinant. Tout est centré sur ce personnage vibrionnant dont on peut supposer ou imaginer qu'il tombe gravement malade, puis qu'il réapparaît, etc. Et donc la seule valeur stable dans tous ces régimes démocratiques, c'est l'érosion par le discrédit. C'est le seul moteur de la vie politique, c'est le discrédit. Qu'on y résiste par des programmes concrets, essayant de surfer, de détourner la crise de la souveraineté étatique, ou bien en assumant complètement ce discrédit.
La question est de savoir, Christian Salmon, si c'est un phénomène passager ou si c'est un phénomène qui va durer.
C'est vraiment la question que je me pose.
Parce qu'elle est inquiétante, cette question. Est-ce
Absolument.
Qu'on est condamné à connaître ça encore pendant des décennies?
Ben, le problème, c'est que lorsqu'il y a un processus comme ça de dégradation, à la fois de la qualité des hommes politiques, de la qualité du débat public, du soupçon qui pèse sur la parole publique, on est dans ce que Michel Foucault appelait la mauvaise parésia, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'a pu être à certains moments la démocratie, un lieu d'affrontement des idées, de confrontation des programmes, mais une sorte de scène burlesque où la politique se meurt. Moi, je pense que ce processus de dégradation, en tout état de cause, il n'est pas terminé. Il y en a encore pour des années. Mais l'enjeu est quand même, par la sociologie, par la caractéristique que portent des catégories de population. Je suis frappé, en gros, pour aller vite et être clair, par l'apparition de ces nouveaux militants aux États-Unis, derrière la figure d'Alexandra Ocasio-Cortez, c'est-à-dire cette nouvelle gauche qui est apparue autour de Bernie Sanders. Elle va monter en puissance par le fait de la sociologie, l'essor des minorités, enfin tout ce que combat Trump, va monter en puissance et va peut-être recréer les conditions d'un renouveau démocratique. Encore faut-il réinventer complètement la démocratie à partir de la base.
Avec un retour au réel de la part de la base.
Exactement.
Des vraies questions, qu'est-ce que se pose la population.
Exactement.
Merci Christian Salmon, vous avez écrit « La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque », un livre publié aux éditions Les Liens qui libèrent.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée cette fois, celui qui interroge ceux qui pensent le monde, comme vous, Christian Salmon. Nous serons en compagnie cette fois de Cynthia Fleury. Nous parlerons avec elle du ressentiment, de ce sentiment contraire, voire destructeur, qu'il faut dompter et si possible éviter. Elle nous dira ce qu'elle en pense en parlant de son dernier livre en date, Sigi la mer, guérir du ressentiment. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.